La prédication protestante. La prédication protestante. Chaque dimanche, un pasteur propose son interprétation d'un texte de la Bible.
Bonjour, je voudrais aujourd'hui avec vous essayer de répondre à une question terriblement importante. C'est pourquoi le mal ? Voilà, j'espère que le texte choisi, qui se trouve dans le livre de la Genèse, eh bien, nous aidera à répondre à cette question, ou en tout cas à être en paix avec cette question. Et puis il y a une autre question que ce texte pourrait nous aider à résoudre, c'est aussi, est-ce que la Bible est sérieuse et fiable, et est-ce que les récits de la création, les chapitres 1, 2 et 3 du livre de la Genèse, eh bien, peuvent être considérés avec sérieux pour nous qui vivons dans une ère où la science a pris beaucoup d'importance, a fait beaucoup de découvertes, et on est parfois un peu en difficulté avec ces textes qui nous semblent naïfs et anciens. La création du monde en 6 jours, et puis évidemment l'histoire du serpent, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et de l'arbre de vie. Alors je vous propose de lire quelques versets du chapitre 3 du livre de la Genèse, et puis on va essayer ensemble de répondre à ces questions. Pourquoi le mal ? Puisque Dieu est bon et que dans les chapitres 1 et 2, tout semble parfait, hein, tout est bon et tout est même très bon, c'est ce que Dieu dit lorsqu'il crée l'homme et la femme. Eh bien, pourquoi sommes-nous dans une telle situation ? On pense évidemment aujourd'hui à ce virus qui fragilise notre monde, qui stoppe notre économie et qui crée tellement de tensions et de polémiques dans notre pays. Mais on pense évidemment aussi à tant d'autres raisons d'être en colère et puis d'être en questionnement. Hein. Pourquoi est-ce que Dieu permet tout ça s'il existe ? Pourquoi le monde va-t-il si mal ? Eh bien, je vous invite à écouter ce vieux texte dans le chapitre 3 du livre de la Genèse, le livre des origines. On peut lire ces paroles. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que le Seigneur avait fait. Il demanda à la femme, « Est-ce vrai que Dieu vous a dit, vous ne devez manger aucun fruit du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous pouvons manger les fruits du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au centre du jardin, Dieu nous a dit, vous ne devez pas en manger, pas même y toucher, de peur d'en mourir. » Le serpent répliqua, « Pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu le sait bien, dès que vous en aurez mangé, vous verrez les choses telles qu'elles sont. Vous serez comme lui, capable de savoir ce qui est bon ou mauvais. » La femme vit que les fruits de l'arbre étaient agréables à regarder, qu'ils devaient être bons et qu'ils donnaient envie d'en manger pour acquérir un savoir plus étendu. Elle en prit un et en mangea, puis elle en donna à son mari qui était avec elle et il en mangea lui aussi. Alors ils se virent tous deux tels qu'ils étaient. Ils se rendirent compte qu'ils étaient nus, ils attachèrent ensemble des feuilles de figuier et ils s'en firent chacun une sorte de pagne. Le soir, quand souffle la brise, l'homme et la femme entendirent le Seigneur se promener dans le jardin. Ils se cachèrent de lui parmi les arbres. Le Seigneur Dieu appela l'homme et lui demanda « Où es-tu ? » L'homme répondit « Je t'ai entendu dans le jardin, j'ai eu peur car je suis nu et je me suis caché. » « Qui t'a appris que tu étais nu ? » demanda le Seigneur Dieu. Aurais-tu goûté au fruit que je t'avais défendu de manger ? L'homme répliqua, « C'est la femme que tu m'as donnée pour compagne. C'est elle qui m'a donné ce fruit et j'en ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit alors à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ? » Elle répondit, « Le serpent m'a trompée et j'ai mangé du fruit. » Si vous connaissez ce texte, et beaucoup de gens le connaissent, même des gens qui ne se réclament pas du christianisme, eh bien vous connaissez la suite et la fin de l'histoire. Après ce refus de prendre au sérieux ce qui leur est reproché, hein, vous avez vu qu'Adam eh bien, dit « c'est la femme que tu m'as donnée » d'une certaine façon, et même Adam est même en train de reprocher à Dieu de lui avoir donné une femme qui l'a entraînée dans l'erreur. L'attitude d'Adam est vraiment étonnante et elle montre que quelque chose a changé en lui. Et puis la femme va faire la même chose en disant « mais c'est le serpent, hein, c'est cet animal que tu as créé qui m'a tenté ou qui m'a menti et puis j'ai trahi ta parole ». On sait que par la suite, eh bien, Dieu va punir les êtres humains, la terre va être maudite, le serpent va être maudit, mais la terre aussi, le sol va être maudit. Et puis les relations entre les êtres humains, et entre les humains et la création, et entre les humains et Dieu, vont être perturbées. Hein. La mort entre dans le monde, et puis plus rien ne va comme avant. Alors, d'une certaine façon, ce texte qui semble naïf, hein, on sait qu'il existe beaucoup de récits des origines, beaucoup de mythologies, eh bien ce texte, avec les chapitres 1 et 2 du livre de la Genèse, ne ressemble pourtant pas à un mythe. Hein. Si on essaie d'aborder d'abord la question de la relation entre la foi et la science, la relation entre les textes bibliques et la science, eh bien on peut constater que même si ce texte et ces textes, les chapitres 1, 2 et puis ce chapitre 3, eh bien ressemblent à des récits mythologiques, il y a aussi beaucoup de différences qui font que ces récits ont eu du mal à entrer dans le cadre, dans la définition classique d'un mythe. Les spécialistes des mythologies, d'ailleurs, expliquent que ce texte est un peu étonnant. Il est tellement sobre, il est tellement froid, et il dit des choses différentes des mythes classiques. On voit d'abord, et c'est notre conviction de chrétien, qu'il peut y avoir des vérités historiques qui sont dites avec des éléments symboliques. Et c'est la première chose que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est que même si dans ce chapitre 3 du livre de la Genèse, on est un peu surpris de ce serpent qui parle, de cet arbre de la connaissance du bien et du mal, et puis plus loin, à la fin du chapitre, de l'arbre de vie, eh bien il faut se dire qu'il nous arrive à nous aussi de dire des choses vraies, mais en utilisant des symboles, ou bien aussi en le disant de façon poétique. On sait que dans la Bible, eh bien il y a des exemples de communications véritables qui ont été faites avec des éléments symboliques ou avec des éléments poétiques. On pense par exemple en fait à l'histoire de David. Vous savez que David, le grand roi, ce grand croyant devant l'Éternel, avait commis un meurtre et un adultère. Et lorsque le prophète Nathan est venu le voir, plutôt que de le mettre en face de sa faute, plutôt que de lui parler simplement, de façon littérale, eh bien il lui raconte une histoire, ce qu'on appelle une parabole. Il lui raconte l'histoire d'un homme dans son royaume qui avait beaucoup de troupeaux et de son voisin qui n'avait qu'une seule brebis. Et cet homme qui avait beaucoup de troupeaux a pris cette brebis. Il l'a prise à son voisin et puis il l'a sacrifiée, il l'a mangée avec ses amis. Et le roi David se met dans une colère folle. Si cet homme existe, s'il est dans mon royaume, eh bien qu'il soit condamné à mort, je vais l'exécuter. Et Nathan répond, eh bien cet homme c'est toi. Le prophète Nathan en fait a utilisé un procédé allégorique, en tout cas une image, une parabole, pour dire quelque chose de vrai. Beaucoup de chrétiens pensent que les récits de la Genèse sont vrais, ce sont des récits historiques. D'ailleurs, dans le chapitre 2 du livre de la Genèse, eh bien, on a ce verset qui va revenir dans tout le livre de la Genèse. « Telle fut l'histoire du ciel et de la terre, et puis plus loin, ce sera l'histoire des fils de Noé ou de Noé, et puis encore l'histoire d'Abraham. » On comprend en fait qu'on est en train de nous raconter véritablement une histoire, et on comprend d'ailleurs que dans ce récit, eh bien, ce qui est important, c'est ce qui va changer dans la relation entre l'homme et Dieu, l'homme et la femme, et puis Dieu. On comprend qu'il y a un événement historique qui va tout bouleverser. C'est ce qui fait d'ailleurs une des différences entre le récit de la Genèse et puis les mythologies, c'est-à-dire que le mal n'est pas déjà dans le monde. Le mal survient dans le monde alors que rien ne semblait le préparer. On a dans les chapitres 1 et 2 du livre de la Genèse, eh bien, un monde créé parfait, tout est bon, tout est même très bon. Tout semble se diriger vers un monde idyllique. Et puis au chapitre 3, nous voyons que cette seule épreuve que Dieu a mis devant l'homme et la femme, eh bien, va les faire chuter, ou en tout cas, ils ne vont pas résister à cette tentation, et ils vont goûter à ce fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, si nous pensons que c'est un récit historique, ça nous donne en fait beaucoup d'espoir. Je vous dis pourquoi. Si le mal était à l'être, c'est ce que disent les philosophes, si le mal était dans le monde depuis les origines, si c'est un peu comme disent certains, le yin et le yang, vous savez, le noir et le blanc, et puis dans le blanc il y a toujours un peu de noir, et dans le blanc et dans le noir il y a toujours un peu de blanc, ce qui est finalement assez vrai. Mais si c'était vraiment une lutte constante, éternelle du bien et du mal, eh bien on aurait difficilement de l'espoir. Dans le texte biblique, on comprend en fait qu'à l'origine, au départ, eh bien, il n'y a pas de mal. On nous dira même d'ailleurs qu'il n'y a pas de mal en Dieu et qu'il n'y a pas d'ombre en lui, ce qui est difficile à accepter quand on voit l'état de notre monde. On comprend, si on fait attention à ce qui nous est raconté dans le chapitre 3 du livre de la Genèse, eh bien, que le mal n'est pas justifiable, qu'il n'est pas explicable, mais qu'il survient quand même. L'homme et la femme vont avoir envie de décider eux-mêmes ce qui est bien et ce qui est mal. En effet, quand on essaie d'entrer dans les symboles de ce chapitre, eh bien, on comprend que cet arbre de la connaissance du bien et du mal, ce n'est pas simplement la connaissance intellectuelle. Certains se disent, bon, ben voilà, les hommes, les êtres humains ont voulu savoir, et Dieu les punit, et ils trouvent ça un peu bizarre. Ils se demandent même si ce n'est pas une critique de la science ou de la connaissance intellectuelle, et ce serait vraiment une erreur de penser ça. Les êtres humains sont créés bons par Dieu et ils sont donc créés intelligents. Ils sont créés pour dominer, en tout cas pour s'occuper de la création, pour être les gérants de la création ou les rois de la création. Et donc ils ont évidemment de l'intelligence. Mais ce qui est critiqué en fait dans la décision des êtres humains, c'est de vouloir décider eux-mêmes ce qui est bien et ce qui est mal. On pense que cet arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est en fait la connaissance autonome, hein, la connaissance sans Dieu. Je veux savoir sans Dieu ce qui est bien et ce qui est mal. Je veux décider moi-même de ce qui est bien et de ce qui est mal. Pour vous donner une petite anecdote qui peut vous aider à comprendre cette situation et cette décision d'Adam et Ève, eh bien, on peut penser à ce qui se passe tous les jours sur la route et ce qui nous arrive souvent dans nos voitures lorsque nous sommes face à des limitations de vitesse ou bien à des panneaux qui nous indiquent ce que nous devons faire. Il y a une loi qui nous dit ce que nous devons faire. Et nous, dans notre cœur, nous avons une envie forte, c'est de décider nous-mêmes ce que nous devons faire. Et je suppose que ça vous est déjà arrivé d'être en voiture et de voir une signalisation, un panneau qui limite la vitesse à 70 km/h pour un virage. Et de vous dire que franchement, les gens qui ont décidé cette vitesse ont exagéré et que ce virage peut être pris à 90 km/h sans aucun danger. Et c'est ce que nous faisons souvent. Nous dépassons les limites parce que nous estimons que nous pouvons nous-mêmes décider ce qui est bien et ce qui est mal. Lorsque les êtres humains ont fait cela, eh bien, ils ont dit à Dieu, nous voulons être nous-mêmes Dieu, hein, nous voulons être à ta place, nous n'acceptons pas la petite limite que tu nous poses. Hein. Et on comprend donc que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'arbre dans le jardin d'Éden, ce n'est pas non plus la sexualité. Vous savez que des gens ont dit, ah ben voilà, le christianisme, c'est une religion qui nous oppresse, une religion de pudeur et puis d'interdit. Et c'était Adam et Ève, en fait, ont commis l'acte sexuel ce jour-là, et Dieu les punit pour cela. Et évidemment, dans la Bible, il n'y a nulle part cette idée que la sexualité serait mauvaise. Il y a régulièrement des critiques d'une mauvaise utilisation de la sexualité. Et justement parce que l'homme a voulu devenir autonome, parce qu'il a voulu être sa propre loi et parce qu'il a voulu être Dieu à la place de Dieu. Alors, le chapitre 3 du livre de la Genèse va peut-être vous laisser sur votre faim. Quand j'ai dit que nous allons certainement répondre à la question « Pourquoi le mal ?», eh bien, le chapitre répond à la question puisqu'il nous dit qu'il y a un événement historique qui explique le mal. C'est parce que les êtres humains se sont détournés de Dieu, qu'ils se sont détournés de la volonté de Dieu, qu'ils n'ont pas résisté à l'épreuve, alors qu'ils étaient avertis, hein, si vous en mangez, vous mourrez. Eh bien, c'est à cause de cette première faute que le monde va si mal. Mais nous, nous avons envie d'aller plus loin et nous avons envie de questionner ce texte et de questionner Dieu, un peu comme Job l'aurait fait dans le livre de l'Ancien Testament, en disant « Oui, mais pourquoi est-ce que Dieu a permis tout ça ? Pourquoi est-ce que Dieu a permis que l'homme et la femme désobéissent alors qu'ils savaient très bien ce qui allait arriver ?» et qu'ils voyaient l'ampleur des dégâts. Hein ? Quand nous voyons notre monde aujourd'hui, quand nous regardons Internet, quand nous écoutons la radio, nous sommes effrayés et effarés de tout ce qui arrive de dramatique. Et quand on pense que Dieu aurait pu éviter tout ça, eh bien on est malheureux et on peut même être en colère. Eh bien, il faut savoir qu'il y a beaucoup de tentatives d'explication du mal. Il y a des philosophes chrétiens, la plupart, qui nous disent eh bien, que ce mal était nécessaire pour que les êtres humains soient vraiment libres. Pour que l'homme et la femme puissent choisir vraiment, il faut qu'il y ait la possibilité du mal. C'est certainement l'explication la plus séduisante, mais je continue de penser que cette explication n'est pas bonne finalement. Dès qu'on essaie de justifier le mal et de lui donner une explication, eh bien on le justifie, on le fait entrer dans notre monde et on lui donne une raison d'être. Et je crois que ce que la Bible maintient, et c'est assez extraordinaire dans tous les récits religieux et qui essaient de répondre à la question du mal et qui essaient de nous pousser vers le bien, ce que la Bible maintient, c'est qu'il n'y a aucune explication rationnelle au mal. Ce qu'elle nous dit, c'est que le mal est survenu, c'est que le mal est arrivé, qu'il faut lutter contre lui et que ce mal aura une fin. Comme il a eu un début, il aura une fin. Et je voudrais vous parler maintenant, en fait, de la fin de ce chapitre 3. S'il y a les paroles de malédiction, s'il y a la punition de Dieu, s'il y a la relation entre les hommes et les femmes qui va se dégrader au point que les désirs de la femme vont se porter vers l'homme et l'homme va dominer sur elle, eh bien, il y a aussi à la fin de ce chapitre ces paroles magnifiques qui nous expliquent qu'il y a un espoir et qu'il y a de quoi espérer. Finalement, le serpent va être écrasé, la descendance du serpent va être écrasée par la descendance de la femme et le serpent va mordre le talon de la femme. On ne réalise pas toujours en lisant ce chapitre 3 et en lisant ce verset eh bien que c'est une annonce de la venue de Christ, de son sacrifice sur la croix, de sa mort, de sa résurrection et de notre résurrection à venir, en tout cas pour nous qui croyons. Lorsque le texte parle de la descendance de la femme qui écrasera le serpent, eh bien, elle nous explique qu'un homme va naître Il va naître d'ailleurs d'une femme, et c'est assez impressionnant que déjà ce texte de la Genèse nous parle de la descendance d'une femme, hein, à l'époque où on parlait plutôt de la descendance d'un homme. Et de la descendance de la femme va naître un enfant ou un homme qui va écraser ce serpent. On pense évidemment à Jésus, à ce sauveur qui va être attendu dans les Écritures et dans l'Ancien Testament, et qui va venir. La vie de Jésus va être extraordinaire, les paroles de Jésus vont être extraordinaires, et sa résurrection va marquer l'histoire de l'humanité. Le fait qu'il soit mort volontairement, il a voulu mourir pour prendre la condamnation qui était sur les êtres humains depuis Genèse 3 sur la croix, et puis le fait qu'il ressuscite nous montre en fait qu'il a vaincu le mal, qu'il a vaincu la mort, et que cette victoire peut être vécue par d'autres. Alors voilà, nous avons dans le chapitre 3 du livre de la Genèse une explication du mal qui nous dit que le mal est arrivé dans le monde et qu'il pourra en repartir, en tout cas qu'il est vaincu et qu'il suffit d'y croire pour être sauvé. Mais nous n'avons pas d'explication complète et totalement satisfaisante qui nous ferait dire « Ah oui, là c'est bon, j'ai tout compris et je crois ». Nous reconnaissons, nous les chrétiens, que Dieu garde des mystères. On se souvient de cette parole du livre du Deutéronome, hein, ce qui est caché est à l'Éternel, ce qui est révélé est à l'être humain. Dieu nous a révélé tout ce dont nous avions besoin pour que nous puissions croire, pour que nous puissions être sauvés, pour que nous puissions aussi être rassurés. Hein, le mal n'aura pas le dernier mot, mais il nous faut quand même saisir cette vérité, cette affirmation et y croire. Je voudrais aussi ajouter quelques mots sur les tensions qui existent entre ces textes, en pensant aux chapitres 1 et 2 aussi, et puis les découvertes scientifiques. Je voudrais exhorter en fait ceux qui lisent ces textes à être plein de confiance et plein de sérieux. Quand on les lit avec humilité, et en général la qualité première d'un scientifique c'est l'humilité, parce que le scientifique sait que ses thèses, ses hypothèses peuvent être remises en question. Si on le lit avec humilité, on comprend que ce texte nous dit des choses importantes sur l'humanité, sur notre vie, et qu'il n'y a pas tant de contradictions nettes et réelles avec les textes scientifiques. On sait qu'il y a une tentation chez les chrétiens et chez la plupart des gens qui réfléchissent, hein, c'est de faire concorder absolument le texte biblique avec les hypothèses scientifiques. Lorsqu'on essaie de le faire absolument, eh bien on se retrouve dans des situations irrationnelles, hein, où finalement les thèses scientifiques du moment sont ensuite abandonnées. C'est ce qu'on appelle le concordisme, quand on veut à tout prix faire concorder le texte biblique avec les thèses scientifiques. Il faut se rappeler que les thèses scientifiques ne sont que des thèses et que ce texte est présenté comme une histoire qui va aider ceux qui ont un esprit scientifique, à mieux comprendre le monde, à mieux comprendre l'humanité. Donc le texte biblique est une révélation supplémentaire, en plus de la révélation générale qu'est la création, qui va aider les scientifiques à mieux comprendre le monde. Et d'ailleurs, cet arbre de la connaissance du bien et du mal, finalement, c'était cette connaissance autonome qui trouble les hommes, parce que les hommes pensent pouvoir comprendre le monde sans Dieu. Et ce que Dieu est en train de leur dire dans ce chapitre 3 de la Genèse, c'est que nous ne pouvons pas comprendre le monde sans Dieu. Nous pouvons essayer d'être des dieux, mais ce sera un drame. Nous serons des tyrans, nous sommes des tyrans, nous sommes des dictateurs. Et Dieu nous demande de le reconnaître. Dieu nous demande de reconnaître nos limites. Il a voulu les êtres humains extraordinaires, mais il les a voulu aussi limités. Il leur a donné une mission extraordinaire, mais elle était limitée. Et comme les êtres humains sont sortis de cette mission, nous sommes maintenant dans des difficultés terribles. Notre seule issue, notre seul moyen, le seul moyen de nous en sortir, c'est de retourner vers Dieu, de retrouver la communion avec le Créateur, avec celui qui peut inspirer les poètes et aussi les scientifiques, celui qui peut changer notre vie, celui qui ne nous donne pas une explication définitive sur le mal, mais qui peut nous libérer du mal. Je vous invite à écouter maintenant cette chanson interprétée par la chorale d'enfants Aquarium, infiniment grand, une chanson en fait qui nous parle de ce Dieu créateur, infiniment grand, qui a voulu le monde parfait et qui a voulu aussi nous sauver, malgré notre désobéissance, nous sauver du mal et nous apporter la paix et la joie complète et profonde. Amen.
L'univers, les astres que tu as créés. que tu t'es.